Alors, frère Romain, tout d'abord, comment est-ce que vous vous présenteriez?
Je me présenterais comme un vieux missionnaire de 60 ans de mission, un vieux de 86 ans qui sort d'hôpital, un peu fatigué, voilà, mais plein d'enthousiasme toujours.
Quelques mots sur la congrégation des Frères du Sacré-Cœur.
Oh mon Dieu, c'est un institut religieux laïque, quoi, fondé en 1821 par le Père Coin, et qui, comme charisme, s'adresse directement aux jeunes. Dans le temps, c'était les sourds-muets. Et maintenant, mon Dieu, ça a bien évolué. Et on a eu tendance à s'éloigner de notre charisme. Et le supérieur général récent nous a ramenés au charisme du fondateur, le Père Coin. Les pauvres, les laissés pour compte.
Vous-même, vous êtes né au Québec, dans une famille catholique?
Très, très, très catholique. Comme j'étais à l'époque, en 1925, quand la France nous a lâchés, et on est le Canada, le Québec est devenu anglais. Et puis, là, on voulait faire de nous des Anglicans. Et le Québec se défendait de ça. Et puis, c'est ce qu'on a appelé la revanche du berceau. Comme l'anglais n'avait qu'un enfant ou deux et un petit chien, nous autres, on va avoir 9, 10, 12. C'est de là qu'est venue la politique, la revanche des berceaux, quoi.
Quand vous est venue cette vocation de missionnaire?
Tout jeune, c'est que je remercie le bon Dieu. Je sentais un appel vers les missions, quoi. Et j'ai, à 14 ans, j'ai cherché un institut, une congrégation qui avait des missions. Et puis j'ai trouvé les Frères du Sacré-Cœur, pas loin de chez moi d'ailleurs, qui avaient une mission à Madagascar. Alors je suis allé frapper à la porte. J'étais un petit bout de 14 ans. Alors je me rappelle, à 16 ans, quand je commençais mon postulat, j'ai demandé au supérieur général qui était de passage, j'ai dit, moi, je veux aller à Madagascar. Ah, tais-toi. Laisse tomber ça, on verra quand tu seras perpétuel. C'est-à-dire quand j'aurai fait les derniers vœux qu'on appelle dans notre langage, dans notre jargon canonique. Alors, en 1949, je faisais les vœux perpétuels et puis j'ai dit au supérieur, je pars.
C'était un rêve de partir. Pourquoi Madagascar?
Mes motivations étaient moins pures qu'actuellement, quoi. Il y avait un côté... D'abord, je trouvais nos salles de communauté très fermées. Il y avait quand même un côté apostolique. Mais je me figurais missionnaire, en filanzano, ou c'est-à-dire en chaise à porteur ou à cheval, parcourir les brousses, puis changer le monde, quoi. Et apporter mon Québec à Madagascar. Quand je me suis aperçu très tôt que c'est pas ça, que je recevais beaucoup plus que je donnais, quoi.
Alors justement, comment se sont passées vos premières années à Madagascar?
J'ai commencé en 1950, on m'a envoyé en Balabao. C'est-à-dire, c'est un village, quoi, assez pauvre, qui est entre Tananarive et Tuléa, mi-chemin, 400 km et 600 km. Et puis, j'ai été fort étonné, on était pendant l'Empire colonial. Je me rappelle, pour ne donner qu'un exemple, presque anecdotique, c'était la Sainte Jeanne d'Arc. On a attendu presque une heure le chef de district français. Et les élèves étaient ensemble, groupés à la cathédrale, pour chanter « Catholique et français, toujours ». Oh, je dis, c'est pas possible. Non, je dis à mon esprit, enlevez-moi d'ici, je vais faire un malheur, quoi. Et on m'a amené dans une école européenne, en plus, à Tananarive. Voilà, commence ma première année. Et après, donc, l'école s'appelait École européenne Sacré-Cœur. J'ai changé le nom en ESCA, École Sacré-Cœur en temps humain. C'est très beau, ESCA veut dire pain, veut dire nourriture. Et puis, petit à petit, à l'époque, il fallait même demander la permission si on avait l'étiquette École européenne pour recevoir des mariages. Et puis, si on recevait des métisses, on nous demandait s'ils étaient café ou lait aussi. à ce point-là. Mais j'ai vite appelé l'école, non plus école européenne, mais école Sacré-Cœur. Et petit à petit, j'ai obtenu que ce soit une école mixte à part entière.
Alors justement, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que les Malgaches ont eu un accès plus facile à l'enseignement?
Vous savez qu'à l'époque, en 1950, quand je suis arrivé, moi, il y avait les citoyens français, malgaches, qui avaient la souveraineté, qui pouvaient fréquenter les écoles publiques. Alors, l'évêque nous a demandé de nous occuper des Français en brousse, parce qu'il n'y avait pas de lycée en brousse, puis les fonctionnaires, les militaires, on a accepté, et puis, mais à la condition qu'on accepte également les Malgaches. Et petit à petit, l'histoire avance, quoi. Pardon, on a changé la politique et le Malgache pouvait avoir accès à tous les niveaux de l'enseignement.
Vous avez aussi connu quelques périodes un petit peu difficiles. On peut dire que vous avez même fait de la prison.
J'ai fait de la prison. J'ai eu cet honneur de faire de la prison. J'ai été un bon jour, on me convoque en Boibo, qui était c'est là qu'on mettait les prisonniers politiques. Qu'est-ce que je vais aller faire là, vraiment? Alors j'arrive là, puis on me dit, voilà, vous avez donc monté un coup d'État. J'ai monté quoi? Un coup d'État, on le sait. Alors avouez vous-même, sinon ça va être très long et vous allez le regretter. Je n'ai pas du tout de quoi vous parler. Et puis ils m'ont dit, mais voilà, j'avais organisé un championnat d'échecs. Avec, si on n'est pas équifile, on n'y voit que dalle, quoi. Alors, les noirs, les cases noires sur le damier, c'était mes anciens élèves, mes élèves malgaches. Les blancs, c'était les mercenaires du Canada. Mais ça serait long à expliquer. Puis j'avais fait une plaquette. Et comme mes jeux n'étaient pas arrivés, et j'avais organisé un grand championnat d'échecs, j'ai dû le reporter. Et à la place de la page où on annonçait le championnat, comment ça allait se dérouler, j'ai mis le championnat qui a eu lieu à Vancouver en 18 coups. Si on n'est pas équipé, on ne comprend rien dans tout ça. Et puis, ils ont voulu penser que c'était un coup d'État que je montais. Je ne sais pas si je peux citer des noms, mais c'est le général Rabetaffe, qui est un grand ami, qui s'est adressé au directeur de la DGID, qui était le colonel. Il a dit, moi, je suis général, toi, tu es colonel, puis je la paix au front commun. Et c'est Muzzazzone, le fameux Muzzazzone, que l'histoire reconnaît comme un très grand politicien, et qui était dans l'opposition, et qui m'a dit, je prends ça en main. Et puis, il a réussi. Et là, à partir de ce moment-là, Muzzazzone m'a dit, Père Romain, viens travailler avec moi dans le Sud. Alors, j'ai quitté l'ESCA pour aller lancer un deuxième lycée dans le Grand Sud.
C'était à Tuléard?
À Tuléard.
C'était dans les années 80. Vous créez une école là-bas de haut niveau sur le modèle de l'ESCA, justement.
C'était sympathique parce que les côtiers ont pensé, peut-être un peu avec raison, que je voulais sortir la côte de sa misère culturelle. Vous savez que la France avait privilégié Tananarive et les hauts plateaux. Et abandonné pratiquement, n'avait rien fait sur la côte. Ils ont pensé, eux, que j'allais les aider à sortir. Alors, il y avait l'état de grâce, quoi. Ils étaient... Alors, j'aurais dit, si vous me donnez une belle jeunesse, je vous donnerai toutes les infrastructures que vous voulez. Et ils ont tenu leur parole, et moi aussi. Et on a fait de Tuléard une deuxième ESCA.
2000, c'est la création du centre Sacré-Cœur. Présentez-nous un petit peu ce centre.
C'était tragique pour moi parce que le supérieur général est passé à Rome, parce qu'on est un institut qui relève directement du pape, quoi. Alors le cardinal est venu, il a visité ce qu'on faisait. Il s'est aperçu qu'on parlait beaucoup des frères du Sacré-Cœur, du frère Romain. Alors, ils ont dit, vous avez vraiment une réputation extraordinaire. Mais on a l'impression que ce sont les élites. Vous travaillez beaucoup avec les élites. Effectivement, on avait une université, l'ESCA. On avait je ne sais pas combien de lycées, une dizaine. Mais on n'avait rien qui était vraiment sur les... Alors ils ont dit, ouvrez une fenêtre sur les vrais pauvres. Alors, les Malgaches sont très respectueux des ancêtres, des grands-frères. C'était le supérieur général qui parlait, donc il fallait faire quelque chose. On se réunit en chapitre et on décide un centre de formation pour jeunes pauvres et sans espérance. dans l'enthousiasme de notre chapitre, on est tous très fervents à ce moment-là, et le chapitre, c'est, ça réunit les supérieurs de chaque secteur. Alors, et puis, on décide, on dit oui au supérieur général, et on lance, on privilégie les pauvres, sans délaisser pour autant les lycées. Et puis, une fois revenu de notre crise mystique, alors on s'est dit, mais hey, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on joue là? On n'a pas les moyens, on n'a pas ce qu'il faut. Puis nous voulons lancer avec une nouvelle œuvre. Alors ils ont dit, oh, le frère Romain a les bras longs, il va s'occuper de ça. Ils sont venus me chercher à Tuléar. Ça a été pénible parce que Tuléar ne voulait pas me laisser partir. J'ai dû partir de nuit pour venir créer un centre qui était très mal défini, sinon pas défini du tout. Et puis là, on s'est réunis. Et puis là, j'ai dit, il faut que le projet s'adresse à des jeunes de 15-18 ans. Et en plus, en situation d'exclusion. Alors, situation de rue, c'est un peu cela, déscolarisation longue ou exclusion sociale, enfin, situation d'handicapé. Alors, on a résumé ça en les suicidaires, les drogués, les alcooliques, les filles mères et les femmes en détresse. C'est un pari vraiment. Alors, on s'est lancé là-dedans. Et puis, j'ai formé une commission, et puis la cible était bien définie, mais par quels moyens? Alors, c'est là que, paniqué, je suis venu à La Réunion. J'ai parlé de ça à des bons amis, peut-être que certains auditeurs, certains qui m'écoutent le vont deviner de, à qui je pense, mais je ne veux pas nommer personne. Alors, des bons conseillers, mes anciens élèves très nombreux, et puis on a fait une grande réunion, on était près de 120, et puis c'est ce soir-là qu'on a décidé l'ARAESCA, Association Réunionnaise des Anciens de l'ESCA. Tout le monde est enthousiaste. Romain, on va t'aider. On est avec toi. Ah, ça m'a donné des ailes.
C'est vrai. Vous avez tout de suite privilégié ce côté professionnel. Il fallait leur apprendre un métier.
Bien oui, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va les sortir de leurs difficultés, si on peut, de leur misère, de leur vice. Mais quoi, comment? Alors, c'est là qu'on a pensé d'abord à un atelier menuiserie. Ouais. Mais il y a des filles, alors coupe et couture. Puis il y en a qui voulaient de la mécanique. Et puis comme on était dans le monde des paysans, une ferme-école. Alors on travaillait par atelier. Et c'est devenu un centre dont Tananarive Madagascar parle beaucoup. Et un centre de formation professionnelle pour jeunes pauvres. C'est notre étiquette, quoi. C'est un professeur très difficile. Et les frères Malgaches qui travaillent avec moi, qui sont appelés à me remplacer, veulent qu'on abandonne le volet drogué, qu'on laisse ça à des spécialistes. Je pense qu'ils ont raison, quoi.
Vous avez été quand même aidé par beaucoup d'associations, vous avez quand même été soutenu.
J'ai été soutenu par... Je me suis mis à faire des dossiers. Je faisais des dossiers. Et puis, il faut faire 5 dossiers pour qu'il y en ait 2 qui passent. Et là, donc, il y a la coopération française, il y a le Canada. Et si le Canada aide, le Québec aide. Et puis après ça, les Rotariens, les Lyons. Les Rotariens m'ont aidé beaucoup. Et puis, mais chapeau à l'ARAESCA qui a vraiment tenu ses promesses et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, psychologiquement, moralement et pécuniairement.
Très bien. Est-ce que ces aides aujourd'hui sont suffisantes pour faire tourner le centre?
Mais je m'aperçois que mes confrères malgaches, avec toute leur bonne volonté, n'arrivent pas dans la gestion. Le mot gestion, le mot entretien, le mot rigueur, ce n'est pas dans le vocabulaire malgache tellement ça. Alors là, actuellement, on est en présence d'une crise assez... D'abord, notre politique qui ressemble à rien du tout, et puis qui néglige complètement les laissés pour compte. On ne peut même pas avoir exonération de douane sur les dons qu'on nous fait. Alors, on est vraiment mis de côté. Les dirigeants n'ont pas pris avec leur politique bien difficile actuellement, j'admets, la crise en plus qui joue. Alors là, j'ai la logistique a du mal à suivre présentement.
Alors, quelles sont aujourd'hui vos attentes?
Je voudrais, d'abord, au point de vue jeune, j'ai 250 jeunes. Moi, je trouve que c'est une réussite. Ils s'aiment, ils recommencent à redécouvrir les valeurs de l'âme malgache. C'est des beaux jeunes. Mais, de plus en plus, personne ne peut payer. Et puis, 250 jeunes sur les bras. Alors, je ne vais pas les mettre à la porte parce qu'ils ne payent pas. C'est fait pour eux. À mes attentes, ce serait... J'ai lancé le parrainage. Alors, je suis rendu à 33. Il m'en faudrait une soixantaine. Alors, donc, les attentes, c'est de dépanner vraiment les très, très pauvres qui mangent quand ils sont chez eux, quand c'est à leur tour. Parce que si toi, tu manges aujourd'hui, c'est moi qui mangerai demain, etc. Les vrais pauvres. Et j'ai découvert, madame, que Dieu est vraiment du côté des pauvres. Ce serait long à donner, mais j'ai reçu des lumières depuis que je m'occupe des pauvres, mais qui me donnent du courage, quoi, de continuer. Alors, mes attentes, ce serait justement de pouvoir m'occuper des encore plus pauvres, ceux qui peuvent même pas me donner un petit peu de riz à la fin du mois, les sortir de là. Et puis, je voudrais créer un nouvel atelier, parce qu'on pourrait se lancer, il y a la menuiserie, il y a la mécanique, mais il manque l'électricité, et il manquerait cet atelier, l'électricité. Ah, je veux monter cet atelier. Et j'ai vu à Paris que c'est pas donné. Hein.
Voilà. On peut lancer l'appel, en tout cas, peut-être.
Lancer l'appel. Ah oui, oui. S'il y en a qui m'écoutent actuellement, venez. Venez me donner la lumière, venez me donner de l'électricité. Non, pour aider les machines qui marchent déjà, mais qui... Et puis surtout, monter vraiment l'électricité. Électricité et plomberie. C'est une affaire de, je ne sais pas, me sent peut-être 10 000 euros quand même.
Donc pour ce système de parrainage, on peut joindre par le biais de la RASCA.
Par le biais de la RASCA, Philippe Massé est le trésorier, Madame Massé, Françoise est secrétaire. L'argent ne sera pas gaspillé, hein. Vous pouvez leur faire confiance.
Dernière question plus personnelle, vous avez un peu plus de 80 ans. Avez-vous le sentiment d'avoir réussi votre vie ?
Un confrère que j'aime beaucoup, qui est arrivé presque en même temps que moi, me disait il y a 5 ans, Romain, ça fait 55 ans qu'on est là, ça fait 50 ans qu'on est là, qu'est-ce qu'il y a de changé? Est-ce qu'il y aurait pire que quand on est arrivé? Alors je m'en vais. Il a baissé les voix. Alors je me suis bien interrogé, moi, qu'est-ce que je fais là? Même là, il y a 14 mois, donc, en août dernier, j'ai dit, est-ce que je retourne ou pas? C'est plus difficile de connaître son devoir que de le faire. Alors, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et puis, je pense que le bon Dieu veut que je vienne, que je revienne. Et puis, quitte à avoir l'impression que je fais rien. Être une présence, et puis essayer de rectifier certaines lacunes. Je ne veux pas me prendre au sérieux, mais je pense que j'ai encore quelques bonnes années à donner, ce que je veux. Et mourir, vous savez, nous avons construit un mausolée, un tombeau, parce que les malgaches disent dans leur philosophie, c'est les bêtes qu'on enterre. Les hommes, on les met dans des tiroirs, dans le tombeau. Alors, être enterré dans le tombeau que j'ai construit avec mes anciens élèves, avec la RASCA. Ou quand Dieu voudra. J'ai 86 ans, et par où je suis passé l'année dernière, des fois je me dis, si tu veux me prendre, prends-moi. À ceux qui présentement m'écoutent, Radio Arc-en-Ciel, quoi, c'est un nom prestigieux. Quoi. C'est l'arc-en-ciel, c'est le parable de Dieu quand il a promis d'être avec nous. Donc, dire à mes chers auditeurs, que je ne connais pas, mais que je devine généreux, osons la vie nouvelle, quoi. Marchons sur les chemins, que je dirais, les chemins de Pâques, quoi, dans l'espérance. c'est quand il pleut qu'il fait bon croire au soleil, quoi.